France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'incroyable aventure d'Ernest Shackleton et de l'endurance. Le 20 mai 1916, sur une petite île de Géorgie du Sud, des hommes qui s'affairent dans l'une des stations baleinières installées en ce lieu n'en reviennent pas. Ils voient arriver, là, depuis la montagne inhabitée qui surplombe, trois hommes hirsutes, sales, les cheveux emmêlés, vêtus de hardes. Le mystère est vite résolu. Il s'agit de l'explorateur britannique Ernest Shackleton et de deux de ses compagnons. Ils avaient quitté les côtes britanniques en août 1914 pour réaliser la traversée du continent antarctique de part en part, ce qui était une première. Tout le monde les croyait morts, reposant au fond avec leur navire déchiqueté par un iceberg ou disparus corps et biens dans une quelconque crevasse. Car l'Endurance, le navire de Shackleton, prisonnier de la banquise, a été littéralement dévoré par les glaces. Mais les 28 hommes qui composent l'équipage repartent sains et saufs après avoir enduré, c'est vrai, des épreuves extrêmement éprouvantes. Notre invité aujourd'hui, Jean-Louis Etienne, médecin et explorateur, connu pour ses expéditions en Arctique et en Antarctique, initiateur du projet PolarPod qui vise à étudier l'océan austral. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Odile Conseil, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Étienne Bertin et David de Prince.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Fermez les yeux un instant, je vous en prie, et imaginez l'Antarctique, que votre esprit s'aventure sur une mer de glace. Des vagues formant de fantastiques sculptures, des icebergs évoquant de féeriques châteaux où miroitent des nuances nacrées de bleu, de cobalt et de rose. Et le silence total.
Les écoliers britanniques connaissent tous la vie d'Ernest Shackleton. Les aventures polaires de cet intrépide aventurier sont aussi célèbres outre-Manche que les odyssées sous-marines de Cousteau chez nous, ou celles de Jean-Louis Etienne. Mais en France, on connaît peu Shackleton, ce fils d'un médecin de la classe moyenne, issu d'une famille d'hommes irrésistiblement attirés par le pôle sud. Son origine modeste et son mariage avec la fille d'un avocat fortuné l'incitent à réussir. C'est dans la marine marchande qu'il apprend son métier, navigateur, et c'est en mer qu'il compte faire fortune. L'Antarctique et la sécurité financière s'identifient plus ou moins dans son esprit, note l'écrivain Alfred Lansing dans son ouvrage de 1959 sur l'endurance, l'incroyable voyage de Shackleton, livre pour lequel il a eu accès à tous les écrits et témoignages des membres de l'équipage. Il y décrit ainsi notre héros.
Shackleton était de taille moyenne, avec un cou épais, des épaules larges, puissantes, légèrement affaissées. Ses cheveux drus, séparés par une raie au milieu, surmontaient une bouche large, sensuelle, très expressive, qui s'épanouissait en un large rire ou se serrait avec énergie sur ses mâchoires d'acier. Ses yeux gris-bleus s'emplissaient tour à tour de gaieté ou de colère. Sur ses traits, assez beaux, s'étendait souvent une expression méditative, comme si ses pensées partaient à 100 lieues de là. Quelle que fût son humeur, gaie ou sombre, il savait toujours ce qu'il voulait. C'était là le trait principal de son caractère.
En tout cas, Shackleton n'est pas bipolaire. Non, son cap, c'est le pôle sud. Quand il entame l'expédition Endurance, en 1914 donc, cet homme de 40 ans est déjà un vieux routier de l'Antarctique. C'est la troisième fois qu'il embarque vers le pôle sud. Lors d'une précédente expédition, en 1907, il s'était approché du point zéro plus que quiconque alors. Mais il avait dû faire demi-tour, faute de provisions suffisantes, pour assurer son retour et celui de ses équipiers. Or, entre-temps, le pôle sud a été conquis par le célèbre Norvégien Amundsen le 14 décembre 1911, qui coiffe au poteau le Britannique Robert Scott, arrivé sur place un mois plus tard, pour y trouver la tente surmontée du drapeau norvégien que son prédécesseur a laissé et qui fait signature. Que restait-il alors à Shackleton pour entrer dans l'histoire? Quel exploit réalisé? Eh bien, il imagine un périple jamais entrepris. La traversée avec chiens et traîneaux du continent austral, soit 3000 km de neige, de montagnes, de glaciers et de blizzards entre deux points opposés du continent, passant par le pôle sud géographique. Son plan est simple, enfin sur le papier. Donc, mener un navire dans la mer de Weddell, débarquer dans la baie de Wassel, 6 hommes et 70 chiens, et se mettre en route vers le pôle. Dans le même temps, un autre navire, l'Aurora, accostera en mer de Ross, à l'endroit diamétralement opposé du continent, et établira des points de ravitaillement pour la seconde partie du périple de l'équipe transcontinentale. Retour prévu sur l'Aurora, donc, dans le monde civilisé, en avril 1915, et un an plus tard, avec l'Endurance, pour ceux qui resteront dans les parages de la mer de Weddell, pour y effectuer des observations et des mesures scientifiques en tout genre. Voilà. Tel est le plan, qui portait bien la marque de Shackleton, note Alfred Lanzing. Réfléchi, audacieux, net. Son auteur ne nourrissait pas le moindre doute sur la possibilité de le réaliser. Sauf que rien ne se passera comme prévu.
Où donc Shackleton trouvera-t-il 60 000 livres? Il n'a même pas fini de payer son expédition précédente.
J'espère qu'il ne s'attend pas à une contribution de notre part. Nous sommes la Société Royale de Géographie, pas la Société Royale pour l'exploration de l'Antarctique.
Il faut près de 2 ans à Ernest Shackleton pour réunir les fonds, acheter les navires et les adapter aux conditions extrêmes de navigation polaire. Il s'agit ensuite de constituer l'équipage. Le chef de l'expédition publie dans le Times une annonce ainsi rédigée.
Cherche homme pour voyage incertain. Petit gage, froid rigoureux, long mois de nuit complète, danger permanent, retour non garanti. Honneur et reconnaissance en cas de succès.
Et il reçoit 5000 candidatures. Alors, avec le choix comme seul embarras, il s'entoure de plusieurs marins aguerris qui ont déjà pris la mer avec lui lors des précédentes expéditions. Pour les autres, c'est au feeling. Si un candidat lui plaît au premier regard, eh bien l'affaire est entendue. Outre les marins, l'équipage compte un météorologiste, un médecin, un physicien. L'un d'eux emporte son banjo qui se révélera providentiel pour le moral des troupes. Et comme il a promis par contrat à ses financeurs d'effectuer des tournées de conférences et d'écrire un livre, Shackleton a la riche idée d'embarquer un photographe à bord, un Australien, Frank Hurley, dont les photos impressionnantes constituent un document exceptionnel sur l'expédition et ont certainement contribué à son entrée dans l'histoire. Frank Hurley a aussi emporté une caméra. Le film qu'il réalise en 1919, South, est considéré comme le premier documentaire au monde.
Regardez bien droit vers l'appareil. C'est tout le reste du monde qui est là, dans l'objectif, juste là. Personne ne bouge. On attend une seconde. Merci à tous.
Fin juillet 1914, enfin tout est prêt. Le navire construit en Norvège, destiné dans une première vie à la pêche à la baleine, constitué des bois les plus résistants et renforcé pour affronter les glaces. Ce 3 mâts goélette, équipé d'un moteur à vapeur et rebaptisé Endurance, c'est la devise de la famille Shackleton. Nous l'emporterons par l'Endurance. Mais la Première Guerre mondiale est déclarée. Le chef de l'expédition met alors son navire et ses hommes à la disposition de l'amirauté. Non merci, répond Churchill, alors ministre de la Marine, qui donne l'ordre de mener leur mission à bien. Car il y va de la grandeur de l'Empire, il leur dit donc, partez. Le 8 août 1914, l'Endurance hisse les voiles et file vers le sud, direction le bout du monde, l'Antarctique. Voici une présentation de ce continent par la télévision française.
À l'extrémité sud de la Terre, les plus vastes océans bordent un continent isolé, l'Antarctique, séparé de son plus proche voisin par près de 1000 km de mer glacée. Ici, le rivage est différent de tout ce qu'on peut voir ailleurs. Des bancs de glace s'étendent sur des kilomètres jusqu'à la mer, cachant la surface de la Terre, se dressant comme une muraille face aux navires qui en approchent.
Le début du voyage se déroule sans histoire. Le 3-mâts fait escale à Buenos Aires, puis en Géorgie du Sud, celle-là même, là où Shackleton et ses compagnons reviendront plus tard. Et après cela, plus un humain à l'horizon. Et cette année-là, le froid est vif, la glace épaisse. L'équipage a été prévenu, vous ne passerez pas. Mais fort de l'injonction churchillienne, allez-y, réussissez, l'Endurance taille résolument sa route vers la mer de Weddell, décrite par Shackleton comme la pire mer du monde. De fait, la progression du navire est sérieusement ralentie par ce qu'on appelle le pack. Autrement dit, les morceaux de glace qui se forment peu à peu, se rassemblent en plaques de plus en plus grandes, se heurtent et se chevauchent selon les courants et les vents. Alors, le chef de l'expédition tente de ruser, de faire des détours, de contourner les barrières de glace qui se forment devant lui pour y trouver un passage praticable. Le puissant navire et sa solide étrave donnent des coups de boutoir pour faire céder la glace. Shackleton raconte.
Quand la route était barrée par des glaces d'épaisseur moyenne, pas plus d'un mètre, nous lancions le bateau à mi-vitesse et les machines étaient arrêtées juste avant le choc. Au premier coup, il taillait dans la glace une entaille en forme de V. L'avant s'élevait presque hors de l'eau, puis le navire glissait en arrière. Ensuite, nous faisions machine arrière de 200 ou 300 mètres. Alors, à toute vitesse, le bateau était de nouveau précipité dans le centre du V. Une échancrure se découpait dans laquelle le bâtiment, comme un grand coin, venait s'enfoncer à plusieurs reprises. Au quatrième essai, généralement, la glace cédait.
Ainsi progresse l'endurance, peu à peu, pas à pas, affrontant une météo tempêteuse et des températures exceptionnellement basses pour la saison. La lutte est inégale. Chaque nuit, la glace se fait plus pressante, plus présente. Les hommes quittent le navire pour dégager la coque à coups de pioche et la libérer, sciant la glace pour tenter de dégager un passage. Mais la force obstinée des éléments les contraint à s'incliner. Ils ne sont pas de taille à lutter contre la nature, contre cette nature-là. Et voilà le navire scotché. En dépit de toutes les tentatives, il n'avance plus. L'endurance est prise dans les glaces, comme une amande au milieu d'une barre de chocolat, comme l'écrit un membre de l'équipage dans son journal de bord. Nous sommes alors le 24 février 1915. Shackleton espère que le bateau retrouvera sa liberté au printemps, une fois que l'hiver austral et sa prison de glace auront disparu. S'il imagine un moment lancer son expédition transcontinentale, là, il n'y donne pas suite, non. Trop risqué sur cette banquise instable, sans doute traversée de chenaux en eau libre, impossible à franchir avec traîneaux et chiens. Et il ne peut pas abandonner son navire dans cette situation, pressentant peut-être le sort funeste qui l'attend. Quoi qu'il en soit, pas question de partager ses doutes. En bon meneur d'homme qu'il est, le boss, comme l'appellent ses hommes, dirige avec entrain les préparatifs pour aborder au mieux les longs mois d'hiver qui arrivent. Alfred Nzing le relate ainsi dans l'ouvrage « Endurance, l'incroyable voyage de Shackleton ».
Les chiens furent débarqués. On construisit pour eux non des igloos, mais des dogloos, avec des blocs de glace et de neige. Tous les membres de l'équipage reçurent des vêtements plus chauds. Les officiers et les savants quittèrent leur logement du gaillard d'avant pour s'installer dans l'entrepont, plus facile à chauffer, qu'ils baptisèrent le Ritz.
Entre navire et banquise, la vie s'organise. Les activités ne manquent pas. La chasse, surtout des manchots et des phoques, dont la graisse sert aussi de combustible. L'entraînement à conduire les attelages de chiens, mais aussi les parties de foot ou de hockey. Les scientifiques de l'expédition prennent des mesures, font des relevés, draguent les chenaux pour en rapporter du plancton ou des fragments de roche. Bref, le moral est au beau fixe, en dépit du soleil chaque jour plus bas. En fait, les hommes ont confiance en Shackleton et en son expérience de l'Antarctique. Sans doute savent-ils aussi que leur chef n'est pas homme à prendre des risques inconsidérés. Non, il l'a prouvé d'ailleurs, en 1908, lors de l'expédition Nimrod à la conquête du pôle Sud. Le grand explorateur Paul-Émile Victor relate cet épisode dans l'émission « L'aventure polaire » sur TF1 en 1978.
Le pôle Sud n'est qu'à 180 km, à portée de la main. Tout plat devant lui, c'est qu'il n'y a rien, il ne peut rien y avoir là-devant. Il n'y a strictement qu'à avancer tout plat, là, sur cette glace, sur cette neige, et 180 km seulement à parcourir pour que le pôle Sud soit à lui. Mais en faisant ses calculs de ration, il se rend compte que il pourrait très bien rentrer jusqu'à Hut Point, à condition que ce retour se fasse vite et qu'il ne soit pas arrêté par le mauvais temps. Il décide de faire demi-tour pour ne pas risquer de faire perdre leur vie à ses compagnons.
Huit mois se passent ainsi, ponctués d'activités quotidiennes, soins et exercices avec les chiens, entretien du trois-mâts qui nécessite des interventions quasi quotidiennes pour le débarrasser de la glace qui l'alourdit, et tant d'autres corvées. à l'arrivée du printemps et du redoux, l'équipage reprend espoir. La glace est disloquée. Je fis abattre l'abri élevé à l'arrière et nous procédâmes à quelques arrangements pour que le bateau fût prêt à démarrer dès qu'il serait libéré. Note Shackleton, le 11 octobre 1915. Mais cet espoir est de courte durée. La météo, décidément hostile, renforce la glace. Le 25 octobre, Shackleton écrit ceci.
Dans notre champ de vision, le pack était soumis à d'énormes compressions, telles que peuvent en produire des vents cycloniques ou les courants les plus violemment opposés de l'océan. Les crêtes massives et menaçantes que nous voyons s'élever quand des masses de glace s'affrontaient prouvaient assez que les forces débordantes de la nature travaillaient. Des blocs de plusieurs tonnes s'élevaient, puis d'autres suivaient, qui repoussaient de côté les précédents. Dans ce monde étrange où nous étions des intrus, tout à fait impuissants, notre vie était le jouet de forces primitives et brutales.
Le 27 octobre, Shackleton décide d'abandonner le navire torturé par la glace chaque jour, un peu plus. Parfois, il frémissait comme un être humain sous l'effet d'une douleur soudaine. À d'autres moments, il semblait se convulser en poussant des cris d'agonie, écrit Alfred Lansing. Les hommes descendent tout ce qu'ils peuvent du navire, tentes, duvets, réchauds, traîneaux, canots de sauvetage, provisions, objets personnels. Et ils s'installent. Mais ils doivent déménager en catastrophe, une faille dans la glace apparaissant au beau milieu du campement. Alors ils se posent un peu plus loin, l'Endurance toujours à portée de vue, bien sûr. En plus des activités quotidiennes dans ce lieu baptisé Ocean Camp, on joue aux cartes dans les tentes, on fait la lecture, les repas et le thé sont servis à l'heure fixe, chaque homme à tour de rôle est chargé de la vaisselle. L'Encyclopédia Britannica, sauvée des eaux, est consultée quand les marins sont en désaccord sur un sujet. Et plus tard, ces pages servent à allumer les pipes. Pendant ce temps, l'Endurance s'enfonce chaque jour un peu plus, jusqu'au 21 novembre 1915.
Dans le lointain, l'arrière de l'Endurance se souleva d'environ 6 mètres et demeura suspendu, avec son hélice immobile et son gouvernail démantibulé. Puis, très lentement, sans bruit, le navire s'enfonça dans la glace. Moins d'une minute plus tard, la glace s'était refermée. Shackleton nota simplement dans son journal que l'Endurance avait coulé, ajoutant « Je suis incapable d'en parler. »
L'agonie de l'Endurance a duré 10 mois. À présent, 28 hommes sont totalement seuls dans cet univers hostile, à mi-chemin du pôle sud et de la première terre habitée. « Et maintenant alors, qu'est-ce qu'on fait ?» demande l'un. « On rentre à la maison, leur répond le patron. » Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'Odyssée de Shackleton et de l'Endurance.
Affaires Sensibles.
J'ai l'espoir et la ferme intention d'accomplir ce voyage vers le pôle et vers les mystères situés au-delà, en traversant tout le continent antarctique, d'une extrémité jusqu'à l'autre.
Fabrice Drouel.
Rentrez à la maison, disait le boss. Oui, plus facile à dire qu'à faire. Mais allez, en route. En décembre, la troupe se met en mouvement avec les chiens, les traîneaux, sur lesquels on a attaché tant bien que mal les trois canots qui étaient sur l'Endurance et tout le matériel nécessaire. Objectif, rejoindre l'île Paulet, à 346 000 de là, soit 600 km tout de même, là où est installée une hutte remplie de provisions. Les hommes sont heureux à l'idée de bouger, mais ce n'est pas une promenade de santé. La progression est ralentie dans une neige ramollie par des températures plus douces. Il nous fallut près de 5 heures pour franchir les 200 premiers mètres, note Shackleton. Cerné par une banquise dans laquelle s'ouvrent des fissures, progressant sur des plaques menacées à tout moment de dislocation, la troupe fait machine arrière et s'installe sur une grande plaque, baptisée cette fois Patience Camp, le camp de la patience. Et il en faudra. Les réserves farines de pois s'épuisent, la nourriture est rationnée. La chasse, phoque et pingouin, survivent bien à l'essentiel des besoins.
La graisse de phoque, crue, bouillie ou frite, était désormais un élément essentiel de notre régime. Nos goûts avaient bien changé à cet égard. Peu de temps auparavant, rien que la pensée d'en manger nous donnait des nausées. Et maintenant, nous en réclamions. Cette graisse rend une épaisse huile noire qui a l'apparence de quelques lubrifiants pour machines et le goût de l'huile de foie de morue. Nous la buvions avec avidité.
On manque de nourriture pour les chiens, alors certains d'entre eux sont abattus et mangés. Le camp porte bien son nom. Les naufragés ne peuvent qu'attendre, en espérant que le vent et les courants fassent dériver la banquise dans une direction favorable. Mais la météo est décidément capricieuse. En ce mois de janvier 1915, le thermomètre remonte, la neige fond, l'humidité imprègne vêtements, duvets, tentes. Puis viennent des tempêtes et un blizzard terrible qui vous glace le sang. Enfin, le 9 avril, alors que deux îles sont à portée de canot, la glace s'ouvre assez largement pour permettre la mise à l'eau des canots sans risquer que les courants ne les coincent entre deux plaques au risque de les écraser. Les embarcations progressent difficilement entre les plaques de glace et les icebergs qui les menacent de tous les côtés. Shackleton vise alors l'île de l'éléphant, dont la dérive de la banquise les a rapprochés. Et ils progressent tant bien que mal dans le pack pendant des jours et des jours. Quand enfin...
Vers midi, brusquement, nous fûmes jetés hors du pack. Des reflets sombres et verts émeraudes couraient sur la mer. Avec un bon vent dans les voiles, nous bondissions sur les vagues comme trois bateaux de vikings en quête d'une Atlantide perdue. Le soleil brillait et pendant les heures suivantes, l'impression de liberté et la magie de la mer compensèrent les peines et les inquiétudes des jours précédents.
Mais ces embellis sont l'exception. Après 6 jours de navigation éprouvants, 6 longues journées où la tension, la fatigue et le froid le disputent à la soif, les trois canots accostent sur l'île de l'éléphant. Cela fait maintenant 497 jours que ces hommes n'ont pas foulé la terre ferme. Mais ils ne sont pas sauvés pour autant. Impensable de demeurer dans ce lieu constitué seulement de pierres et de glace, battu par un vent terrible, sans la moindre chance d'y voir débarquer quelque humain. Après consultation, le boss annonce la suite des événements. Avec 5 hommes, il va tenter de rallier la Géorgie du Sud, située à 800 000 de là, soit près de 1300 km, pour y chercher du secours. Les tempêtes à répétition obligent souvent les hommes à chercher refuge au fond de leur duvet. Mais dès que c'est possible, tous préparent le James Caird, l'un des trois canots sauvés de l'Endurance, pour cette traversée, précisément. Il est ponté, lesté avec des pierres et consolidé pour tenir bon dans un océan déchaîné, celui des 50e hurlants et des 60e mugissants. Le 24 avril, avant que l'hiver ne vienne figer les eaux autour de l'île, les 6 hommes s'entassent dans ces frêles esquifs de 7 mètres avec des provisions pour 1 mois. Le James Caird prend la mer, cap au nord-est. Ce n'est rien de dire que le voyage est éprouvant. Le canot est secoué par les tempêtes, blackboulé par des vagues de 12 à 15 mètres, poussé par des vents de 150 km/h. les hommes sont frigorifiés par l'humidité. Extrait de la narration qu'en a faite Shackleton, ici lu par Thierry Beauchamp dans une émission de France Culture en janvier 2023.
Le cinquième jour, les conditions atmosphériques ne changèrent pas. La tempête devint même si violente qu'il nous fallut amener la grande voile et hisser le petit foc. Le bateau était assez haut pour subir l'assaut du vent. Aussi, jetâmes-nous une ancre de large pour maintenir le James Caird debout à la lame. Cette ancre consistait en un sac de toile triangulaire attaché au bout du câbleau. Les crêtes des vagues se frisaient droit au-dessus de nous et nous embarquions beaucoup d'eau, ce qui nécessitait un incessant pompage. Nous voyions les immenses vagues se creuser comme des cavernes avant de s'écrouler. Un bon millier de fois, il sembla que le James Caird allait être englouti. Mais il résista.
Au septième jour, quand le soleil fait enfin une apparition, Frank Worsley, capitaine de l'Endurance, peut enfin faire le point. Le James Caird est sur la bonne route, à mi-chemin de son but. Mais il faut encore à l'équipage affronter une gigantesque vague scélérate, puis une soif obsédante. Le 8 mai, ils sont en vue de la Géorgie du Sud. Mais il faut encore deux jours de bagarre avec les éléments pour atteindre un endroit où débarquer. Là, les hommes trouvent un filet d'eau douce qui est pour eux le meilleur des nectars. Sont-ils enfin au bout de leur peine? Eh bien non. La station baleinière de Stromness, où ils trouveront des humains et de l'aide, est située de l'autre côté de l'île. Il ne faut pas compter l'atteindre par la mer, la côte recèle trop de dangers, et la baleinière a trop souffert pour y résister. Reste donc à traverser à pied. C'est-à-dire à franchir une chaîne de montagnes, des glaciers et autres terrains difficiles, d'autant plus difficiles que l'hiver est là. Ce qu'il s'apprête à faire, personne ne l'a jamais réalisé. Shackleton se met en route avec deux de ses compagnons et un équipement réduit au plus léger. Trois jours de provisions chacun, un réchaud et une casserole, une hache de charpentier pour faire office de piolet et une corde alpine pour les crevasses et les pentes abruptes. Des sacs de couchage? Non. Non, les hommes marcheront sans s'arrêter, sauf pour manger. Le charpentier de l'équipe cloue les chaussures des trois marcheurs pour les aider dans la glace. Leur carte indique que 30 km à vol d'oiseau les séparent de la station baleinière, mais 30 km de terre inconnue et pleine de dangers. Voici un épisode de cette traversée.
Le brillant clair de lune nous révéla une contrée effroyablement chaotique. Les hauts pics, les falaises infranchissables, des pentes neigeuses escarpées, des glaciers abrupts alternant avec des étendues glacées recouvertes de neige donnaient au pays sa physionomie. La pente, que nous montions en ligne droite, arrivait à une arête. La lune nous dévoila, sous la forme d'une grande ombre, une énorme crevasse capable d'engloutir une armée. Nous étions maintenant à 5 km de la baie et le continuel grondement du grand glacier nous parvenait encore.
Il faut 36 heures aux trois hommes pour arriver à la station baleinière, vagabonds à l'apparence repoussante, bien plus que fiers aventuriers. Mais l'administrateur du lieu connaît Shackleton. Alors les voici bientôt lavés, rasés, habillés de propre. Des mesures sont prises pour qu'un navire prenne rapidement la mer, afin de récupérer les trois hommes restés de l'autre côté de l'île. Reste à mener une opération de sauvetage pour les 22 hommes de l'île de l'éléphant, et ce n'est pas rien. Alors Shackleton veut partir sans tarder. Le 23 mai, il appareille sur un baleinier désarmé pour l'hiver, avec un équipage de volontaires, pour la plupart norvégiens. Mais ce steamer, conçu pour la pleine mer, ne peut affronter la glace qui s'est déjà formée autour de l'île. Shackleton fait alors route vers les îles Malouines, oui, celles que 70 ans plus tard, les Argentins inconscients essaieront de prendre aux Anglais en 1982. Bref, sur cet archipel, de son nom britannique, Falklands, situé à plus de 2000 km de là, l'équipe de Shackleton pourrait y chercher un bateau plus capable, selon le mot de l'explorateur. Mais il n'y en a aucun à Port Stanley, la capitale des Malouines. La chance, qui avait jusqu'alors soutenu Shackleton et son équipage, semble l'abandonner. Oh, le boss tente bien de faire venir un navire d'Angleterre, mais l'amirauté préoccupée par la guerre qui sévit a bien d'autres chats à fouetter. On lui promet finalement un navire auquel il faudra cependant des semaines pour arriver. Non. Impossible d'attendre. C'est ensuite un chalutier, propriété du gouvernement uruguayen, qui se propose. Mais il est lui aussi arrêté par la barrière de glace qui ceinture l'île, et il doit faire demi-tour. Bis repetita avec une goélette baptisée Emma. n'est jamais découragé. Shackleton fait une quatrième tentative, cette fois au départ de Punta Arenas. Et c'est la bonne. La Providence nous favorisa. Par un temps relativement beau, le petit steamer nous rapprocha rapidement de l'île. La glace n'y séjournait plus, notre Shackleton. Nous sommes le 30 août 1916.
Whiskey is the life of man, whiskey, Johnny. Oh, whiskey from an old tin can, whiskey from a Johnny. Oh, whiskey here, whiskey there.
Sur l'île de l'éléphant, les hommes ont survécu tant bien que mal. Il a fallu amputer les orteils gelés de l'un, percer un énorme abcès plein de pus d'un autre, supporter les ronflements tonitruants d'un troisième dans le canot retourné qui sert de cabane, tester le lichen comme substitut au tabac, et surtout, garder le moral en se racontant des histoires ou en inventant des chansons. Et attendre, espérer. Malgré les jours qui passent, sans que rien ne vienne troubler l'horizon désespérément vide. Alfred Lansing témoigne.
Dans les discussions, l'éventuelle perte du James Caird ne s'évoquait jamais. En parler eût été une lourde faute de tact, une espèce de souillure à quelque chose de sacré. Cependant, ils ne pouvaient pas ne pas s'avouer à eux-mêmes que, même sans supposer un naufrage, un contretemps quelconque s'était produit. 99 jours s'étaient écoulés depuis le départ de Shackleton. Il se demandait de plus en plus s'il n'attendait pas un événement qui ne surviendrait jamais.
En s'approchant dans un canot, dès qu'il est à portée de voix, Shackleton pose la seule question qui vaille. Sans doute plein de craintes quant à la réponse. Vous allez bien ? Nous allons tous bien, boss. Alors quoi ? Tout est bien, qui finit bien ? Presque. Car il s'agit à présent de voler au secours du groupe de la mer de Ross, celui qui avait accosté avec l'Aurora de l'autre côté du continent austral et que l'équipe de Shackleton aurait dû retrouver si tout s'était passé comme prévu. Or, de ce côté du continent, l'imprévu surgit également. L'Aurora s'est trouvé un mouillage sûr, il est amarré comme il faut pour la saison d'hiver, mais il brise ses amarres lors d'une terrible tempête. Le navire est entraîné à la dérive, moteur cassé, avec une poignée d'hommes à bord. Les 10 autres, restés sur la banquise, remplissent néanmoins leur mission. Installer des dépôts de vivres pour la dernière partie de la transcontinentale de Shackleton et de ses compagnons. 3 hommes, cependant, périssent dans l'aventure. Shackleton, de son côté, a retrouvé l'Aurora en Nouvelle-Zélande, où le navire est réparé, et il fait route vers la mer de Ross. Le 10 janvier 1917, les 7 survivants aperçoivent l'Aurora. Ils sont sauvés. Et stupéfaits de voir Shackleton en débarquer alors qu'il l'attendait du côté terre avec chiens et traîneaux. En tout cas, cette série d'épreuves n'a pas éteint la passion de l'explorateur pour le pôle Sud. En 1922, il se remet en route pour une expédition polaire. Mais il meurt d'un arrêt cardiaque alors qu'il vient d'arriver en Géorgie du Sud, encore elle. Son épouse demande que sa dépouille ne soit pas rapatriée au Royaume-Uni, mais inhumée sur l'île. Oui, c'est là qu'il repose, près de ce qui, toute sa vie, a été pour lui un pôle d'attraction. Et l'Endurance ? Eh bien, 100 ans exactement après la mort du boss, l'épave est retrouvée par 3000 mètres de fond, étonnamment bien conservée, comme le montrent les images des robots qui l'ont repérée et filmée. L'expédition Endurance 22 avait pour ambition de retrouver l'épave la plus inaccessible qui soit, dixit son responsable. Mission accomplie.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'incroyable aventure d'Ernest Shackleton et de l'Endurance, dont nous parlons avec notre invité Jean-Louis Etienne. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ravis d'accueillir le grand explorateur que vous êtes, en Arctique comme en Antarctique. Alors, vous avez réussi, vous, hein, là où Shackleton a échoué, c'est-à-dire que vous avez mené à bien la Transantarctica en 1989 et 1990. On y reviendra, bien sûr. Alors, vous avez aussi préfacé l'ouvrage Ernest Shackleton, le boss, de l'italienne Mirella Tenderini, où vous écrivez: Ernest Shackleton a tenté par 3 fois d'atteindre le pôle Sud, 3 échecs. Et pourtant, Shackleton est tout sauf un loser. J'aimerais qu'on revienne sur ce constat.
Mais quand Shackleton entame cette tentative de traversée de l'Antarctique, c'est déjà quelqu'un de très connu. Il a fait une première tentative, vous l'avez bien décrit, avec Scott. Et ensuite, il a monté sa propre expédition lui-même. Il a échoué à 100 milles du pôle, donc avec une décision très audacieuse, parce que c'était quelque chose de très convoité, le pôle Sud. Mmh. Et donc, il tente jusqu'au bout, il revient, et il ramène tous ses équipiers. Ça, c'est important dans la vie de Shackleton. Et en plus, il est en oubli par Edward VII. Donc, quand il part faire sa traversée, c'est déjà Sir Ernest Shackleton. Mmh.
C'est déjà une star, quoi.
C'est déjà une star en Angleterre. Et donc, sa traversée est suivie, et ce naufrage est suivi. Et surtout, ce qui est suivi, c'est l'audace du retour. Ramener tous ses hommes. Mmh. Ça, c'est quelque chose d'assez unique. Puis, ils ont traversé des circonstances incroyable, à la fois de le bateau qui est complètement échoué, qui se fait broyer, qui coule sous leurs yeux, quoi. Et ensuite, revenir à terre, aller chercher du secours, ça c'est quelque chose absolument d'exceptionnel. Et le fait d'avoir ramené tout le monde, c'est important. Et autre chose aussi qui fait sa notoriété, et vous l'avez dit aussi, c'est la première fois qu'on a des images. Mais un film.
Oui, premier documentaire du monde. Voilà, on estime que c'est le premier documentaire du monde.
Du monde polaire, on va dire déjà. Oui, c'est ça, oui. Mais sur ces images, on voit les mâts, les deux mâts, à un moment donné, qui tombent, la chute des mâts. Ouais. C'est-à-dire qu'on vit en direct quasiment ce naufrage. Et donc c'est dans les mémoires. Et Shackleton était un homme sympathique, chaleureux. Et donc il avait tout le public britannique avec lui, bien sûr.
Alors, bien sûr, il y a Amundsen. Lui, c'est vraiment le winner, hein, c'est le grand gagnant. Bon, ça, oui, c'est clair. Oui. Puis il y a Falcon Scott, c'est différent, Scott.
C'est différent. Shackleton donc, fait sa première tentative avec Scott. Et là, il découvre effectivement une organisation qui n'est pas tout à fait la sienne. C'est une organisation très institutionnelle. C'est la Navy, avec des protocoles, etc. Et donc, il ne s'inscrit pas beaucoup là-dedans. Mmh. Et ce qui est surprenant, c'est que les Britanniques ont vraiment exploré les régions polaires, en Arctique et en Antarctique. Ils s'y sont pris d'une manière qui garantissait quasiment l'échec. Ils ont pris des poneys de Mandchourie, les premiers. Ils sont allés chercher en Mandchourie des poneys parce qu'ils se disaient que ce sont des animaux qui supportent le froid, vous voyez, de Mandchourie. Oui. Mais amener des poneys qui sont des herbivores dans un secteur où il n'y a pas un brin d'herbe. Et donc, ils ont commencé avec eux, ces pauvres poneys s'enfoncer dans les crevasses, etc. Et donc, ils les ont tous tués et ils ont terminé en tirant leur traîneau, s'épuisant jusqu'au pôle. Ouais. Là, je parle de Scott. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qu'il voit? Vous l'avez dit, la cabane. Amundsen a laissé une tente avec un petit mot, salut.
Une vraie signature.
Ce qui est remarquable, quand même, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait rien du tout. Il naviguait avec le soleil. Donc, il fallait faire le point avec le soleil. Et donc, on fait le point avec le soleil en mer sur une eau plate. Mais pour faire l'eau plate, si vous voulez, il n'y a pas d'eau là-bas. Et on prend du mercure, le mercure qui reste liquide à basse température. Mm-hmm. Et donc, au sextant, ils font des mesures. Et après, il faut revenir dans la tente, faire des calculs. C'est exceptionnel. Et donc, Amundsen trouve le pôle et met son drapeau. Et Scott trouve le même. Ça veut dire cette précision de la navigation dans les deux équipes. Pour moi, c'est des êtres exceptionnels.
Alors justement, puisqu'on parle des humains, la personnalité du chef, j'ai l'impression que c'est vraiment important dans ce genre d'expédition.
C'est très important, effectivement. Et à partir de ce moment-là, sa première expédition au pôle, Shackleton va être l'artisan de ses propres expéditions. Ouais. Il était sélectionné pour aller avec Scott, et là il devient l'artisan.
Et donc, se met à son compte, quoi.
Exactement, il se met à son compte, et il va découvrir ce que c'est qu'à son compte, c'est-à-dire, ben, il va falloir aller chercher des sous, aller chercher des moyens, et il y passe du temps, c'est quelque chose que je connais parfaitement.
Oui.
Et je dirais, j'ai l'habitude de dire, c'est aussi ingrat que l'autostop, vous voyez, sur le bord de la route, vous êtes quelqu'un de bien, personne ne s'arrête, et de temps en temps, il y en a un, il fallait le chercher.
Alors justement, vous écrivez, toujours dans la préface, hein, que Shackleton était un homme cultivé, affable, sociable, enthousiaste, apparemment tout le contraire de Robert Scott, officier de la Royal Navy, avec tout ce que cela comporte de raideur, voire de mépris de classe. À choisir, vous auriez préféré partir avec qui? Je vous ai dit, c'est une question personnelle.
Oui, alors là, sans hésitation, c'est Shackleton, bien sûr. J'ai deux héros dans les régions polaires, Nansen au nord,
oui,
et Shackleton au sud. Vraiment, avoir, j'ai connu des conditions difficiles, mais avoir cette endurance, résister à la tentation de l'abandon, voyez, être confronté. Attendez, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait rien. Personne ne savait où ils étaient, on pouvait les penser morts, etc.
Ah, donc, c'est ce qu'on a pensé d'ailleurs.
Donc c'était uniquement dans leurs ressources personnelles intérieures qui pouvaient résister à cette signification. Donc Shackleton, j'y serais allé un grand plaisir. Et quand j'ai été à l'île Elephant, Elephant Island, je suis allé dans cette grotte, et tout d'un coup j'ai fermé les yeux, je me suis imaginer le passager clandestin et voir arriver Shackleton sur le Yalcho qui vient les chercher. Ce qu'ils ont vécu, c'est exceptionnel. Quoi. C'est pas du cinéma, c'est la réalité.
Oui, et ça ferait du bon cinéma en même temps. Cinéma-réalité. Pôle Sud, Pôle Nord. Je ne vais pas vous poser une question naïve, la différence entre les deux, il y en a pour une heure.
Non,
mais qu'est-ce qu'on trouve au Pôle Sud qu'on ne ressent pas au Pôle Nord ou inversement?
Alors, vous avez dit le mot, inversement. Ouais. C'est-à-dire le Nord, bien sûr, inversement.
Inversement
mais inversement dans le sens géographique du terme. Mm. Le Pôle Nord est au milieu d'un océan gelé.
D'accord.
Entouré par les pays qu'on connaît, l'immense Sibérie, le nord de l'Europe, le Canada, l'Alaska. Donc cet océan est gelé, recouvert par une couche de banquise qui faisait 2 mètres d'épaisseur quand j'y étais en 86, qui se réduit en épaisseur et en surface. Donc ça, c'est le nord. Un océan gelé, mais qui est très chaotique. C'est pas une patinoire, quoi. Hein, parce que la dérive, l'océan dérive, il y a des crêtes de compression, vous avez des murs de glace qui font 4 ou 5 mètres d'épaisseur. Donc c'est un vrai chantier à traverser. Ça, c'est le nord. Le sud, c'est l'Antarctique. L'Antarctique est un continent. Le pôle sud est au milieu d'un continent de glace. Mm-hmm. Pour vous donner une idée, c'est grand comme 28 fois la surface de la France. Un puzzle bien serré, là, de France, voyez, 28 France, et vous recouvrez le tout de 2,5 km de glace. 2500 mètres de glace sur 28 France. C'est la taille du glaçon en Antarctique. C'est 80% de l'eau douce de la planète. Et donc, ce que veut faire Shackleton, c'est traverser ce continent de glace qui est beaucoup moins chaotique et difficile que celui du Nord. Mais pour y aller, il faut qu'il traverse cette mer de Weddell pour arriver à la côte. Et c'est là qu'il va se faire prendre par les glaces. Et c'est une autre histoire qui commence.
France Inter. Affaires sensibles.
Jean-Louis Etienne, donc vous avez réussi là où Shackleton a échoué. Bon, c'est pas une compétition, il y a 80 ans plus tard avec d'autres moyens.
Hein. Oui, bien sûr.
Mais ça veut dire que vous avez fait la traversée du continent austral dans son plus grand diamètre, soit 6300 km, sans aide mécanique, mais avec chiens et traîneaux. C'était en 1989, vous étiez 6, de 6 nationalités différentes d'ailleurs, avec un objectif, préserver ce continent, parce que c'est bien un continent, de l'exploitation minière et de la pollution 36 ans plus tard. Donc aujourd'hui, quel souvenir et quel bilan gardez-vous ?
Si vous voulez, quand on a décidé de faire ce projet international, un Anglais, un Américain, un Chinois, un Russe qui était soviétique, un Japonais, l'idée, si vous voulez, c'est à cette époque-là, il y avait une signature du traité pour exploiter les richesses de l'Antarctique. Et je considérais que c'était une violation du traité de l'Antarctique, qui veut que cet immense continent reste une terre de science, une terre de paix. Ouais. Et donc j'avais dit à mes collègues, il faut qu'on ait une devise. La devise, ça va être « L'Antarctique n'est pas un continent pour l'homme, c'est un continent pour la Terre. Mmh. » Voilà, n'y touchons pas. Mmh. Et donc, il devait
touche
y avoir...
Touche pas mon pôle, quoi.
Voilà, touche pas mon pôle, exactement. Et donc, il devait y avoir une ratification qui devait se faire à Paris en octobre. Il y avait la réunion du traité de l'Antarctique à Paris. Et donc, effectivement, un acteur, vous évoquez le rôle qu'on a joué. On a joué un rôle, si vous voulez, parce que comme c'était très international, on a été diffusé partout, on a fait des projets pédagogiques, ce qui nous a valu d'être reçus par les chefs d'État, si vous voulez.
On s'en souvient, hein, c'est pas si vieux que ça.
Ah oui, en rentrant aux États-Unis par George Bush, le père, Mitterrand, etc., tous les pays. Mais ceux qui ont joué aussi un rôle plus politique, c'est Michel Rocard, avec Bob Hawke, qui était le premier ministre australien, et Cousteau, et le commandant Cousteau, mm-hmm. qui eux ont joué un rôle beaucoup plus politique, de manière à ce qu'il n'y ait pas la ratification, voyez.
D'accord.
Donc il n'y a pas de ratification, donc normalement, jusqu'en 2048, ils ont eu cette intelligence, si vous voulez, ces hommes politiques, de se dire, on n'a pas besoin de ces richesses pour le moment, on ne sait pas ce qu'il y a, c'est loin, c'est difficile d'accès, il n'y a pas d'urgence, donnons-nous du temps. Et donc, jusqu'en 2048, normalement, on n'a pas droit de toucher aux richesses de l'Antarctique. Écoutez,
c'est, bien, c'est bien signé, mais il faut que ça suive dans les faits. Quoi.
Oui, il y a un danger. Les Russes ont annoncé il n'y a pas très longtemps qu'ils avaient trouvé en Antarctique, bien sûr, des richesses en pétrole, etc. Donc ça reste toujours fragile quand même.
Alors, on a parlé de l'aventure humaine, parce que c'est aussi une aventure humaine. Elle n'est pas que scientifique et écologique. Elle doit être écologique. Elle est humaine. Est-ce que vous avez vécu, vous, des moments vraiment durs, où vous avez eu peur, vous avez été désespéré?
Beaucoup plus au pôle Nord, pour mon expédition en solitaire en 86, que pendant la traversée de l'Antarctique. On l'a faite avec des chiens. C'était long, ça a duré 7 mois. Vous avez évoqué un moment important, c'est que moi, il n'y avait pas de GPS, pas de téléphone. Donc moi, j'étais à la radio et j'arrivais à capter des informations. Et c'est là, effectivement, qu'en octobre, en novembre, c'est l'effondrement du mur de Berlin, la fin du bloc soviétique. Et je dis aux Russes, ton pays est en train de changer.
Mais oui.
On était là-bas, vous voyez. Ça, c'était en novembre.
C'est fou pour lui, quand même, ce changement historique de son propre pays à des milliers de kilomètres de là.
J'arrive à capter RFI, Voice of America, donc je lui donnais des nouvelles. En décembre, le Dalai Lama est prix Nobel de la paix. On avait le chinois, je lui dis, dis donc. Ah, il m'a dit, vous n'avez jamais rien compris, le Tibet. Voilà. Donc on a vécu des choses intenses comme ça. Pour moi, c'était une découverte, si vous voulez, de ce projet international. Mais là où j'ai le plus souffert, on va dire physiquement et moralement, c'est au pôle Nord, qui est très chaotique. J'ai connu moins 52 sous la tente, vous voyez.
Et seul en plus ?
Oui, seul, oui. Le 6 mars. Et donc, je connaissais ce que c'était que l'hypothermie. Je savais que j'entrais en hypothermie. Je faisais des tables de multiplication pour mesurer mon niveau de conscience. Vous voyez, des choses comme ça. Ouais. Le plus difficile, c'était de résister à la tentation de l'abandon.
Bien sûr.
Parce que c'est l'abandon, c'est la facilité, vous voyez.
Ah, mais c'est l'échec en même temps.
C'est l'échec.
C'est dur, quoi.
Donc j'ai échoué en 85, une première fois, je m'étais blessé à l'épaule, je suis revenu en 86, j'avais une meilleure culture. Et sincèrement, après 2 mois, 63 jours de marche, l'arrivée au pôle Nord, il n'y a rien au pôle Nord, hein, je vous ai dit, c'est au milieu d'un océan, la banquise dérive, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien, comme au pôle Sud, on ne peut pas marquer quelque chose. Par la navigation, là aussi, pas de GPS, je me dis, là j'y suis, et donc à ce moment-là, je décide que j'ai rempli mon contrat. C'est un moment unique dans mon existence, où ce soulagement, vous voyez, d'avoir... Ça faisait des années que je pensais à ça, ce soulagement. Je parlais à la glace, je parlais au traîneau, j'avais besoin d'exprimer ça. Et puis, je me suis dit, ça sera ma vie.
Ouais, c'est la vie de l'explorateur, c'est-à-dire que c'est l'aboutissement, quand enfin on y arrive.
Oui,
et
on y arrive.
On a souffert, mais on n'a pas souffert pour rien. Je vais un peu vite, pardonnez-moi, il ne reste qu'une minute. Je voulais quand même qu'on dise un mot du projet actuel, PolarPod.
À PolarPod, c'est une plateforme qui va dériver autour de l'Antarctique pour étudier l'océan austral. C'est loin, c'est difficile d'accès, il n'y a que les marins du Vendée Globe qui y passent tous les 4 ans.
Bon, ils s'en souviennent en principe. Hein.
Ils s'en souviennent. Donc c'est un tube vertical qui assure une stabilité dans cette mer de tempête, les 50e hurlants. Et pour la communauté scientifique internationale, c'est the major data gap of the global ocean. C'est l'océan qu'on connaît le moins. Et la seule façon d'y arriver, c'est avec un vaisseau stable vertical dans la tempête, comme peut donner PolarPod. Ça prend du temps, mais on va y arriver.
Une date, une échéance ?
Si je pouvais partir en 86, le 9 décembre 1986, j'aurais 80 ans. Vous voyez, ça serait ma meilleure...
Bon, 86, comment ça 86 ?
Non, en 2026.
Ah oui, parce que je vous souviens pas, 86. J'ai dit à Jean-Louis Etienne, rembobine.
Non. Le 9 décembre 2026.
Bon. On s'est bien compris.
J'aurai 80 ans, ça serait mon gros cadeau.
Merci infiniment, Jean-Louis Etienne.
Avec plaisir.
Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'endurance et Monsieur Shackleton. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ludovic Asselot.